Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Michael Simon. L'écho fête la science cette semaine, nouvelle série consacrée à la recherche scientifique et à ses liaisons parfois dangereuses avec l'économie. À l'heure où le monde entier a les yeux braqués sur les avancées du futur vaccin, on se demandera entre autres si la recherche médicale a été confisquée par des intérêts privés. Mais d'abord, c'est le rapport de force entre la Chine et l'Union européenne qui retient notre attention. Depuis plusieurs mois, Bruxelles durcit le ton face à Pékin. L'UE veut en finir avec l'absence de réciprocité dans sa relation avec la puissance chinoise. Tandis que la répression contre les militants hongkongais et les Ouïghours se poursuit, l'Europe peut-elle rééquilibrer ses relations commerciales avec la Chine? Le débat est ouvert. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler du bras de fer entre la Chine et l'Union européenne, nous accueillons aujourd'hui trois invités. Sébastien Jean, économiste, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Bei Xu, économiste à la Société Générale. Et Laurent Malvezin, consultant en développement international et fondateur du réseau Osons la Chine. En fin d'émission, vous retrouverez la bibliothèque de l'écho. On parlera management et nouvelle organisation du travail avec le sociologue François Dupuis.
Il est indispensable d'avoir de bonnes relations stratégiques avec la Chine sans se faire d'illusions. Il faut se laisser inspirer par le principe de réalité. Et sur les 15 dernières années, la Chine a changé, a connu une croissance économique exceptionnelle, d'où les exigences de réciprocité, d'égalité de traitement, qui sont tout à fait justifiées et légitimes aujourd'hui, qui ne l'étaient peut-être pas autant il y a 15 ans, quand la Chine était un pays en voie de développement, alors que maintenant la Chine est un pays de haute technologie, un concurrent, et qui doit offrir des conditions d'accès à nos entreprises identiques à celles que nous offrons aux entreprises chinoises.
Sébastien Jean, Bei Xu et Laurent Malvezin, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On vient d'entendre la chancelière Angela Merkel à l'issue du sommet UE-Chine, c'était le 14 septembre dernier. Alors cet accord sur les investissements entre la Chine et l'Union européenne est en négociation depuis 7 ans. Il doit voir le jour à la fin de l'année 2020, mais rien n'est moins sûr. Or pour l'Europe, comme le disait Angela Merkel, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union, il y a urgence à imposer plus de réciprocité à son partenaire chinois, Sébastien Jean.
Il y a l'extrait que vous venez de passer, je pense, montre assez bien le fait qu'il y a un sentiment effectivement que les choses doivent changer, qui est aussi un sentiment que la Chine elle-même a changé, et donc il serait naturel que, en tout cas, il y a une demande de la part des Européens pour que la relation elle-même évolue. Est-ce qu'il y a urgence? Je ne sais pas. Je crois que ce qu'on a vu au sommet récent par visioconférence, hein, c'est que finalement les Chinois semblaient plus pressés de conclure que les Européens, en tout cas plus allants pour essayer de conclure dans l'année que les Européens, qui aujourd'hui, je crois, se disent cet accord, certes, il est important, certes, ça serait bien de le conclure rapidement, mais avant tout, il faut le faire sur des bases saines. C'est-à-dire que ce qui se joue au fond, c'est la possibilité d'avoir confiance dans le fait qu'on va pouvoir établir un ensemble de règles. Il y en a déjà qui existent, hein, entendons-nous bien. On part évidemment pas de zéro, mais il y a quand même pas mal en jeu dans cet accord. Et que cet ensemble de règles nous permettra de poser les bases d'une concurrence équitable dans la durée avec la Chine, sachant nos différences. Et nos différences de système économique et même d'orientation politique. Et je crois que il y a du coup on replace cet accord dans un cadre plus large avec une volonté de plus grand pragmatisme dans la relation.
La conclusion de cet accord d'ici à la fin de l'année est jugée possible par Pékin, mais comme le disait Sébastien Jean, les Européens redoutent finalement un accord au rabais, Laurent Malvezin.
Je ne pense pas qu'ils le redoutent, ils ne le feront pas. Ils l'ont plus ou moins dit ces dernières semaines. Mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. Mais la question se cristallise aujourd'hui sur cet accord global sur les investissements, mais elle est plus large. Comme l'a montré le dernier sommet du Conseil européen, le 1er 2 octobre dernier, où la question avec la Chine était plus large que ce traité sur les investissements, qui n'est pas encore l'arlésienne de la relation sino-européenne, et qui pourrait le devenir si on écoute le ministre chinois des Affaires étrangères dire en Allemagne le 2 septembre dernier qu'il ne faudrait pas que les Européens se perdent dans les détails de cet accord.
Mmh. Avant de venir aux autres enjeux, parce qu'effectivement il y en a, Baïchou, expliquez-nous peut-être pourquoi on a besoin aujourd'hui, pourquoi l'Europe a besoin de cette réciprocité dans sa relation commerciale avec la Chine. Qu'est-ce qu'elle exige aujourd'hui, l'Europe ?
Je pense que l'Europe exige une réciprocité, mais c'est aussi parce que l'Europe a envie de poser plus de conditions à son partenaire qui est la Chine. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est la Chine qui est dans une position de besoin d'un partenariat plus profond avec l'Europe. Et donc, évidemment, c'est l'occasion pour l'Europe de poser plus de conditions. Alors, la Chine en a plus besoin, surtout en ce moment, dans ce contexte de tension internationale, mais je pense qu'on y reviendra là-dessus. On voit aujourd'hui la situation de l'économie chinoise. Hein. L'économie, certes, c'est une croissance qui est toujours positive, mais la Chine a du mal à changer son modèle de croissance, et surtout avec la crise Covid. La consommation des ménages, c'est la seule composante de la demande qui a du mal à revenir à son niveau d'avant-crise. Mmh. Et donc, si elle n'a pas suffisamment de demandes internes, elle a vraiment besoin de la demande externe. Et donc, d'où pourquoi la Chine a besoin d'un partenariat plus profond avec l'Europe, notamment.
La Chine a besoin de l'Europe, vous êtes d'accord avec cela, Sébastien Jean, plus qu'inversement, et c'est peut-être pour ça qu'elle serait prête à faire des concessions ?
Au fond, on partage la même terre, on a tous besoin les uns des autres, surtout quand on est sur des grandes puissances comme ça, qui sont vraiment les piliers de l'ordre international. Et une partie de ce qui se joue dans ces relations entre l'Europe et la Chine, c'est la possibilité pour la communauté internationale de s'entendre sur des règles, sachant que... Il y a un mécontentement, en fait, par rapport à la situation actuelle. Il ne faut pas se le cacher. C'est aux États-Unis que ça a été le plus bruyant, hein, de façon abrupte, de façon parfois brutale. Mais au fond, les Européens, eux non plus, ne sont pas très satisfaits de cette situation dans laquelle ils ont l'impression.
Il faut expliquer de quoi ? Les subventions, notamment, aux entreprises publiques chinoises ?
Il y a beaucoup d'éléments. Il y a les subventions, c'est beaucoup plus large que ça. C'est en fait le contrôle par l'État et le parti de l'économie chinoise, qui est un contrôle très protéiforme, qui prend beaucoup de formes différentes, des subventions, mais aussi beaucoup d'autres interventions de l'État. Une situation dans laquelle les Européens ont l'impression que, eux, finalement, ils ouvrent leur marché à l'investissement. Alors maintenant, ils commencent à essayer de contrôler ça, justement, alors qu'en face, ils font face à beaucoup de restrictions. Une situation dans l'application des normes et des réglementations, par exemple, qui sont beaucoup plus complexes et qui donnent l'impression d'être beaucoup plus discriminantes en Chine que ce qu'elles sont en Europe. Donc, en gros, les Européens sont en train de se dire, bon, fut un temps où, comme l'a dit Mme Merkel dans l'interview que vous passiez, où la Chine était en développement, alors il fallait prendre en compte ses fragilités, les inégalités, etc. Aujourd'hui, où la Chine est une grande puissance, on veut une vraie réciprocité. Et puis, l'autre chose qui est nouvelle, qui était apparente dans la stratégie que l'Union européenne a publiée, enfin, la Commission européenne a publiée sur la Chine il y a un an et demi, et Mme von der Leyen l'a redit quasiment mot pour mot il y a une semaine, on qualifie maintenant la Chine de partenaire en négociation et en coopération, concurrent économique et rival systémique. Ça veut dire, c'est vraiment une façon de dire, on ne se focalise plus seulement sur la relation économique, on doit mettre ça dans le contexte d'une relation géopolitique qui est de très grande importance pour nous. Et donc, on élargit le débat, cette commission qui en plus se veut géopolitique, pose la question de la relation avec la Chine d'une façon élargie et largement géopolitique, plus seulement économique.
Pour bien comprendre cette défaillance de réciprocité dans la relation économique entre la Chine et l'Union européenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent Malvezin, comment finalement les entreprises chinoises ont une possibilité d'accéder au marché européen alors que l'inverse peut s'avérer difficile, en particulier dans certains secteurs ?
Il y a une raison très simple, c'est que la puissance européenne est la puissance commerciale la plus ouverte au monde. Ça, c'est dans son ADN. La question inverse de savoir le taux d'ouverture du marché chinois aux entreprises européennes en particulier, mais pas que européennes, s'inscrit dans le contexte de la politique d'ouverture de la Chine, entre guillemets.
Aujourd'hui, il y a une volonté notamment pour l'Union européenne d'accéder au marché chinois, en particulier dans le secteur des télécoms, de l'automobile. Ça fait partie des enjeux ?
Alors, des télécoms, oui, c'est là, avec notamment le domaine financier, où les barrières sont les plus importantes. Il y a eu des avancées dernièrement de la part de la Chine dans l'industrie automobile, où les restrictions d'implantation, avec notamment en joint venture, avec des entreprises chinoises ont été levées. Mais il reste tout un ensemble de secteurs d'activité qui restent administrés et qui ne correspondent pas ce à quoi doivent faire face les entreprises européennes, eu égard à leur ouverture à elles sur le marché européen.
Baïchou, sur la fermeture de ces secteurs, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et aussi, ajoutons à cela un autre sujet de discussion, les surcapacités industrielles de la Chine. L'Europe les considère comme une menace pour le commerce mondial?
Alors d'abord sur le progrès que la Chine a déjà effectué et puis pourrait éventuellement accepter de faire. Donc lorsqu'on regarde l'histoire de l'ouverture économique de la Chine, ça ne date que d'il y a 40 ans. Donc la Chine, elle passait d'un pays de très faibles revenus à un pays qui aujourd'hui a de revenus intermédiaires selon la définition de la Banque mondiale. Donc on va dire que en termes d'ouverture de marché, en termes de réglementation de marché, c'est encore un marché relativement jeune. Alors évidemment, c'est un marché qui évolue et on ne peut pas exclure la possibilité que ça évolue dans le bon sens selon les standards internationaux, bien évidemment. Donc lorsqu'on regarde l'agenda de réforme d'ouverture que la Chine a déjà publié, on voit que la Chine exigeait auparavant un joint venture 50-50 avec un partenariat étranger dans le secteur de l'automobile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle envisage d'ouvrir son secteur financier avec une licence 100% donnée à un gestionnaire de gestion de portefeuille étranger, donc ou un broker étranger. Donc tout ça devient possible aujourd'hui. Donc c'est un marché qui évolue. Donc je pense que c'est là aussi que l'Europe a raison d'exiger plus d'évolution à ce marché qui a une réglementation qui n'est pas pareille qu'ailleurs.
Mais on a le sentiment aujourd'hui que l'Europe durcit le ton, alors même qu'en avril 2019, le sommet UE-Chine avait laissé entendre qu'une coopération entre les deux puissances économiques était possible, contrairement à ce que disait par exemple Donald Trump, Sébastien Jean.
Oui, il y a un changement indéniable de position de l'Europe dans cette relation avec la Chine, à faire preuve d'impatience dans l'obtention effective de cette réciprocité. C'est aggravé, je pense, aujourd'hui par le fait que la Chine a signé un accord le 15 janvier dernier avec les États-Unis, dans lequel ils ont accordé un certain nombre d'avantages d'accès au marché, alors d'une part des garanties d'importation, d'autre part justement des accès au marché dans la finance ou les données, et les Européens du coup, ont comme objectif immédiat d'arriver à revenir à parité, à égalité de traitement avec les États-Unis. Ça vient s'ajouter au reste. Et puis, il y a eu évidemment cette sorte de prise de conscience par rapport à la stratégie étatique sous-jacente au comportement des entreprises chinoises. Ce qui a été peut-être le symbole le plus éclatant de ça, ça a été le rachat de KUKA, ce leader mondial de la robotique industrielle allemande, en 2016, par un grand groupe chinois. Et dont on a bien vu à ce moment-là que ça faisait partie d'une stratégie coordonnée, d'autant qu'il y avait au même moment, enfin quelques mois avant, je crois qu'il y avait simultanément une quarantaine de projets de rachat industriel par des entreprises chinoises en Allemagne. Donc là, il y a eu une prise de conscience de la part des milieux économiques et gouvernementaux allemands qu'il fallait faire quelque chose, que vraiment ça posait un problème, parce que sinon, on avait une conception de cette relation qui était purement économique, tandis qu'en face, on avait un État qui en avait une conception très différente, qui se basait pas du tout sur les mêmes fondements de régulation, disons, et les mêmes règles du jeu. à ce moment-là, on serait perdant. Donc, c'est sans doute un raisonnement auquel nous, en France, on était plus perméables. Les Allemands étaient quand même plus sur la doctrine ordo-libérale, les règles sont bonnes, si on les applique, tout va bien se passer.
Et leurs relations commerciales étaient plutôt équilibrées avec la Chine, c'était aussi lié à cela.
Elles sont très déséquilibrées globalement, mais en Allemagne, moins qu'ailleurs, vous avez raison de le dire, il y a un déficit commercial d'Allemagne avec la Chine bilatéralement, mais il est assez limité. En France, c'est presque la moitié de notre déficit commercial qui est fait avec la Chine. Alors, il y a des effets d'optique là-dedans, hein, parce que la Chine est aussi la tête de pont de l'exportation asiatique. Donc, une partie de ce que les Chinois exportent est constituée de composants japonais, coréens, taïwanais. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément se fixer, il ne faut pas tomber dans le trumpisme économique qui est de se fixer sur le déficit bilatéral. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais il reste qu'il y a un problème, je crois, c'est une réalité indéniable de réciprocité et puis de se mettre d'accord sur les règles du jeu.
Alors, ce que l'on constate, Laurent Malvezin, c'est que c'est comme souvent quand l'Allemagne se met à bouger, que les choses bougent. Aujourd'hui, on voit que le fait que la position de l'Allemagne a évolué pourrait entraîner un durcissement de la position de l'Europe vis-à-vis de la Chine.
Alors, je pense que sur cette question, l'Europe, d'abord, n'a pas attendu les États-Unis pour se mettre en ordre de bataille. Sa politique industrielle ne date pas d'hier, même si on en voit les fruits, et on en verra les fruits dans les mois qui viennent. Et quand vous faites un petit flashback sur le d'où on vient avec la Chine dans nos relations économiques avec elle, moi je vois trois périodes. Il y a une période, la commission Barroso, hein, c'est 2004-2014. Où là, on était dans des relations, on était dans les premières années de la Chine dans l'OMC. On voyait des déficits s'accroître, n'ayant pas de mécanisme de suivi très très strict. La réponse a été lente, mais la question de la réciprocité s'est posée dès les années 2005-2010.
Donc vous ne parleriez pas de naïveté, qui est le procès que l'on fait souvent à l'Europe.
Alors, c'est très difficile de résumer une attitude des 28 à l'époque et des 27 aujourd'hui en disant naïveté ou cécité. Je pense que le processus était en cours, ça a été lent. Encore une fois, il n'y a pas eu de mécanisme de suivi, contrairement à ce qui va être mis en place par le Conseil européen et la Commission européenne. Dans les futures relations avec la Chine, il y aura un mécanisme de suivi. Et j'ajoute que c'est sur cet accord, sur cette question du monitoring, quand on parle un petit peu jargon anglais, donc de suivi de relations commerciales et ou d'investissement, que le bas a blessé, si j'ose dire, dans l'accord sino-américain. Non pas sur la phase 1 strictement commerciale, mais dans l'hypothétique phase 2, où les États-Unis exigeaient un mécanisme de suivi avec un instrument pour pouvoir revenir en arrière si les termes n'étaient pas et les règles n'étaient pas respectées. C'est ce qui est en train d'être mis en place entre l'Europe et la Chine. Et c'est, je pense, là-dessus aussi que les Chinois... Pourquoi les Chinois ont du mal à accepter ce type de mécanisme?
Alors, il y a beaucoup de reproches formulés par l'Union européenne à la Chine, mais il y a tout de même des avancées. Le fait que l'UE et la Chine aient réussi à signer un accord en novembre 2019 dans le but de protéger leurs exportations respectives d'aliments et de boissons. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Baïchu?
Mais je pense que Sébastien Jean l'a bien mentionné tout à l'heure, c'est qu'on vit dans un monde bien interconnecté. On ne peut pas vivre là l'un sans l'autre. Et on voit très bien que l'Europe a intérêt également à continuer à nouer ce partenariat avec la Chine. Et je voudrais quand même citer quelques chiffres concernant l'intérêt européen en Chine. Donc lorsqu'on regarde le stock d'IDE allemand en Chine...
Investissement direct à l'étranger.
Exactement, merci. Donc il est quand même à la hauteur de 80 milliards d'euros. Et sur ces 80 milliards d'euros, l'Allemagne en tire un profit qui est quand même important. Donc lorsqu'on regarde le revenu primaire de la balance des paiements, qui est essentiellement constitué de revenus salariales, mais bon, il n'y a pas énormément de versements de revenus salariaux de la Chine vers l'Allemagne. Donc tout le reste, c'est-à-dire la plupart, c'est des revenus liés à l'investissement, tout investissement confondu. Et lorsqu'on regarde regarde ces investissements-là, la grande partie, ce sont des investissements directs à l'étranger. Et donc, lorsqu'on fait une approximation de la rentabilité que ce que l'Allemagne tire profit chaque année, c'est quand même environ 15 milliards d'euros de revenus primaires depuis la Chine en balance de paiement bilatéral. Donc, ça fait facilement un calcul, mais vraiment très rapide, de plus de 10% de rentabilité. Alors que lorsqu'on regarde les actifs que l'Allemagne a dans le reste du monde, et c'est une rentabilité moyenne de 2,4% seulement.
Donc ce que vous nous dites, c'est que la Chine n'est pas si fermée que cela aux investissements directs à l'étranger venus de l'Europe.
Ben, elle est, en tout cas, la Chine reste encore un marché extrêmement attractif pour l'Europe. Puisque lorsqu'on regarde le taux de rendement de ces investissements directs à l'étranger, on voit qu'on ne peut pas se passer du marché chinois.
Et à l'inverse, ce qu'on constate du côté de l'Europe, Sébastien Jean, c'est un nouveau mécanisme européen de filtrage de ces investissements directs à l'étranger qui devrait être opérationnel en Europe. Qu'est-ce qui est redouté par l'Europe, sachant que selon la Cour des comptes de l'Europe, justement, Pékin aurait investi entre 2010 et 2019 150 milliards d'euros sur le vieux continent?
Ce que redoutent les Européens, c'est de se mettre dans une situation de concurrence qui serait complètement faussée, parce que d'un côté, on aurait des entreprises européennes qui joueraient selon les règles de la concurrence de marché. On a des disciplines sur les aides d'État qui, plus en Europe, qui sont très strictes. Et en face, des entreprises chinoises qui seraient en fait le faux-nez de l'État chinois et de sa stratégie de capitalisme d'État. Autrement dit, qui, par exemple, achèterait l'entreprise de ce leader de la robotique industrielle auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, non pas pour l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise sur son propre marché, mais comme une pièce dans la stratégie de l'État chinois pour s'approprier ces technologies et les mettre au service de son économie dans son entier. Le problème, si vous voulez, il s'agit pas de critiquer cette stratégie de l'État chinois, il s'agit juste de notre point de vue, nous, Européens, de se dire, est-ce que ce sont des règles sur lesquelles on est d'accord et dont on considère qu'elles posent les bases d'une concurrence équitable ou pas. Et ce qu'on peut dire, par exemple, dans un cas comme celui-là, c'est que l'entreprise en question, enfin celle-là en l'occurrence, enfin ou une autre, mais une entreprise européenne, il n'est pas facile pour elle d'accéder au marché chinois. Dès lors qu'elle est rachetée par une entreprise chinoise, elle va y accéder beaucoup plus facilement. D'une certaine façon, il y a même un biais immédiat, c'est-à-dire qu'en la rachetant, l'entreprise chinoise lui donne de la valeur parce que ça s'intègre dans une stratégie coordonnée. Hein. Donc, et puis ensuite, il y a tout le problème de savoir comment les technologies sont brevetées, comment elles sont protégées, comment elles sont transmises d'une entreprise à l'autre, est-ce qu'elles sont facilement accessibles aux concurrents vis-à-vis moyennant éventuellement des droits de licence, est-ce qu'elles sont limitées à un sous-ensemble par exemple en Chine. Et c'est d'autant plus important toutes ces questions que, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un rival systémique, la Chine. Hein, n'oublions pas, et ça c'est de plus en plus important étant donné le nouveau statut de la Chine, de grand leader mondial parmi les superpuissances mondiales, la Chine n'a pas le même système politique que nous et n'a pas les mêmes objectifs. Donc, il est normal de remettre ça dans un contexte plus large.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Jean, Laurent Malvezin et Bei Shu pour parler des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine. Alors il faut dire un mot tout de même de ces entreprises chinoises et de leurs liens avec le pouvoir en Chine, Laurent Malvezin. Ce que vous dites, c'est que la majorité de ces grandes entreprises sont soumises à la supervision du Parti communiste. Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, elles sont soumises, bien évidemment, à l'autorité de leur donneur d'ordre économique, d'abord, qui est l'État. Mais pour toutes les grandes entreprises chinoises, elles sont dirigées également sur le plan de l'adéquation entre ce qu'elles font et ce qu'elles mettent en place, en Chine comme à l'étranger, aux directives politique et idéologique du parti. C'est constitutionnel du système politico-économique chinois, où politique et économie sont intimement liés.
Donc chaque grande entreprise, par exemple, dispose d'une cellule du parti?
Alors, oui, on peut résumer cela comme ça, mais la cellule n'est pas un endroit clos, ce n'est pas une pièce, si vous voulez, dans l'entreprise. C'est toute une organisation et toute une dissémination de directives plus ou moins, comment dirais-je, qui atteignent non seulement la stratégie, non seulement les relations avec le monde extérieur, l'international. Donc le parti est absolument aujourd'hui partout dans l'économie chinoise.
Et c'est, ce sont ces liaisons dangereuses entre pouvoir et économie en Chine qui expliquent aujourd'hui, selon vous, Baichou, que l'Union européenne cherche à se protéger davantage, et on le voit notamment avec l'affaire Huawei.
Alors l'affaire Huawei, c'est vraiment une affaire qui est particulière, parce que Huawei, c'est vraiment la entreprise chinoise qui soit internationale. Donc on connaît Alibaba, on connaît JD.com, on connaît plein d'autres, mais qui sont des géants numériques, mais qui ne sont pas si internationalisés que Huawei. Alors Huawei, aujourd'hui, la problématique, à mon sens, c'est que Huawei, c'est le leader de 5G. 5G, c'est l'avenir de l'économie Internet, donc de tous ces objets connectés. Et donc, pour une fois, c'est une entreprise chinoise qui est le leader mondial dans ce secteur-là. Et je pense que c'est pour ça que Huawei a été ciblée, entre autres. Alors, bien évidemment...
Raison économique plus que politique, c'est ça que vous nous dites.
Oui, bien plus économique que politique.
Sébastien Jean, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que la Chine a intérêt à faire davantage de concessions dans un contexte où son image est largement écornée par la répression contre les militants hongkongais et contre les Ouïghours?
Je dirais que...
Est-ce que c'est un moyen de pression pour l'Europe, en tout cas?
Oui, c'est un moyen de pression. Probablement aussi que la Chine est suffisamment forte pour faire des concessions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est quand même très puissante économiquement. Elle a bien géré, enfin de manière très autoritaire, mais très efficace, la crise du Covid. Économiquement, cette année, c'est probablement la seule grande économie qui va faire une croissance positive, même si après on peut s'interroger sur le contenu de cette croissance, etc. Et donc, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que du point de vue politique, ça donne l'impression que la Chine a tiré de cette force la capacité de prendre de front les Européens et les Américains, et en disant maintenant les affaires chinoises, on fait ce qu'on veut en gros, et vous n'avez plus voix au chapitre, donc sur Hong Kong, sur les Ouïghours, et même sur Taïwan, on voit que le ton monte, la Chine affirme sa puissance, et sans complexe d'une certaine façon. Cette puissance politique, je pense, lui donne aussi la capacité de faire des concessions au niveau économique et se dire, bon, voilà, c'est plus forcément le but premier. On peut aussi se servir de l'économie pour établir des partenariats politiques. Et du coup, l'instabilité de leur relation avec les Américains, je pense, les amène à être plus allants avec les Européens et peut-être plus enclins à faire des concessions. Maintenant, pour nous, Européens, ça pose la question de savoir où est-ce qu'on met la barre. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, à quel moment on se dit, voilà, on a un ensemble de règles qui, en dépit de la différence de cette économie complètement pilotée qu'on commentait à l'instant, malgré ça, on pense qu'on peut avoir une concurrence qui va être profitable pour tous et pas seulement pour eux.
On a le sentiment aujourd'hui, Laurent Malvezin, que la Chine donne un certain nombre de gages. Par exemple, elle a annoncé s'engager à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Alors là, on peut évidemment discuter de cette question parce que le pays continue de construire de nombreuses centrales à charbon. Mais elle a aussi, dans le même temps, adopté mi-mars 2019 une loi sur l'investissement étranger censée garantir une égalité de traitement aux entreprises nationales et étrangères, notamment dans l'attribution des marchés publics. Quel regard est-ce que vous portez sur ces gages chinois, Laurent Malvezin?
Alors, concernant le climat, ce sont des déclarations. D'abord, ça n'a pas été traduit ni ratifié au Parlement, ni traduit en termes de politique publique à ce jour. Enfin, dans l'ordre, d'abord en engagement de politique publique, puis traduit par des textes législatifs au Parlement chinois. Vous mentionnez le regain de certaines provinces, leur appétit de la course au PIB, si j'ose dire, par le charbon et une économie qui était censée être derrière nous. Moi, j'y vois autre chose aussi. Je me rappelle que la Chine à l'OMC, c'était avant 2001, avant son adhésion, c'était une promesse faite au monde qu'elle rejoindrait les pays économie de marché. Or, la Chine a reconnu en juin dernier, en creux, en ne renouvelant pas sa plainte auprès de l'Union européenne concernant son statut d'économie de marché, qu'elle n'est plus une économie de marché. Donc la Chine, officiellement, n'est plus une économie de marché.
Comment se définit-elle alors ?
Par une sorte de jargon qu'on traduit en français également, mais dont je me ferai l'économie ici pour ne pas paraître trop abscon. Elle a une économie propre, avec des règles propres qu'elle semble vouloir appliquer non seulement à son économie, mais à l'économie internationale.
Et qu'est-ce que ça implique alors, ce non-statut d'économie de marché, pour vous, Laurent Malvezin ?
Alors, ça implique qu'on n'est pas dans le même système. D'où la formule de la Commission européenne de rival systémique. Moi, je rajouterais que, au-delà de l'économie, où le système politico-économique chinois diverge et non pas converge de l'ordre international tel qu'il était conçu après Bretton Woods et donc après la Seconde Guerre mondiale, que son système et ses orientations politiques divergent également de nos démocraties occidentales. Donc pour moi, quand je lis et quand j'entends rival systémique, je comprends révisionnisme. C'est-à-dire que la Chine veut non seulement réviser ou adopter ou suivre des propres règles et lois économiques, en matière économique, elle veut aussi imposer sur le plan politique et stratégique d'autres règles. Mmh. Un autre monde qu'elle dit vouloir simplement améliorer, si j'entends les déclarations officielles, mais en créant des institutions nouvelles et en affaiblissant celles existantes, je pense, est en train de vouloir imposer quelque chose de nouveau au monde.
D'autres règles et d'autres normes, Beichou, c'est notamment le sens du plan China Standards 2035.
Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que dans la tête des dirigeants chinois, aujourd'hui, l'ordre international a été établi avant que la Chine soit un participant important dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'elle envisage de mettre ses cartes sur la table. Et donc, elle voudrait notamment réviser certaines normes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'affaire Huawei est très importante, parce que en tant que leader de 5G, Huawei pourrait participer pour écrire les normes concernant 5G. Si elle n'a pas de leader dans un secteur, eh bien la Chine ne pourrait pas écrire les normes internationales dans ce secteur-là. Et encore une fois, ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, je voudrais insister là-dessus, même si je ne sais pas encore à mon niveau si c'est possible, c'est que la Chine, les dirigeants chinois, dans leur tête, ils séparent de façon vraiment très nette le monde politique et le monde économique. Il y a bien les deux mondes. Donc, en termes économiques, la Chine veut collaborer. Elle veut faire des concessions. C'est bien sûr possible. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu depuis 40 ans. Depuis 40 ans, c'est un régime communiste qui prône l'ouverture de marché, les réformes, des entreprises étatiques, même si aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire. Mais dans la tête des dirigeants chinois, ça, c'est tout à fait possible de coexister avec un système politique de socialisme ou de communisme.
Mais alors face à cette position chinoise et dans un contexte où les relations entre les États-Unis et la Chine se détériorent, quelle peut être la place de l'Europe ? On a le sentiment qu'elle est un petit peu condamnée à être prise entre deux feux, Sébastien Jean.
C'est difficile pour l'Europe, en effet, parce que l'Europe n'est pas un pays, contrairement à ces deux autres grandes puissances. C'est une construction régionale, et qui plus est, c'est une construction régionale qui a été historiquement bâtie pour essayer de diluer les conflits de pouvoir, de puissance, par des règles. Bon, pour des raisons évidentes du traumatisme de la guerre. Et donc, l'Europe s'est construite d'une façon qui était une sorte de négation de la puissance. Et donc, aujourd'hui, alors elle pouvait le faire à l'abri de la protection américaine. Aujourd'hui, où elle s'aperçoit que finalement, compter sur cette protection américaine est peut-être un peu hasardeux et qu'il faut vraiment qu'elle affirme sa puissance, qu'elle affirme ses propres intérêts. C'est difficile pour elle de les défendre. Donc, on n'a pas on a une diplomatie européenne, mais en fait, on a une diplomatie quand même très fragmentée au niveau européen et une difficulté à s'accorder sur les enjeux de puissance. Donc, je crois que le gros défi en la matière pour l'Europe, c'est la cohésion. Et d'ailleurs, bon, il me semble que c'est assez largement partagé comme analyse. Et d'ailleurs, quand le président Xi Jinping est venu en Europe l'an dernier, Emmanuel Macron l'avait reçu avec Angela Merkel et avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission à l'époque, pour affirmer le fait que la Chine ne s'adressait pas à un État membre, elle devait s'adresser à l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est vraiment la condition pour qu'on puisse exister dans ces tensions, disons, et ne pas être simplement un terrain de jeu, mais un joueur, un acteur. Alors, en termes réglementaires, l'Europe est très puissante, hein, dans beaucoup de secteurs, mais pas dans tous. Et puis, qu'est-ce qu'il en sera demain? Est-ce qu'on risque pas de subir les dégâts collatéraux de ces tensions très fortes, quand même, aujourd'hui, très brutales, au fond, entre les États-Unis et la Chine? C'est vraiment la question, je pense.
Une illustration de cette idée de l'Europe prise entre deux feux. Maïchou, vous qui parliez, qui nous expliquiez un petit peu davantage en quoi consistait l'affaire Huawei, c'est le fait que la banque britannique HSBC fait les frais des tensions aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fait qu'HSBC a fourni des informations sur Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, et la fille du fondateur du géant chinois, et le fait est que la Chine a pris des mesures de rétorsion.
Alors encore une fois, je pense que cette tension entre les États-Unis et la Chine, entre guillemets, coince énormément d'acteurs économiques. Donc HSBC en est un, mais il y en a plein d'autres. On voit le TSMC qui est la plus grande fonderie du monde des semi-conducteurs, qui est une entreprise taïwanaise, qui est le plus grand fournisseur de semi-conducteurs à Huawei. Aujourd'hui, sous la pression de l'administration américaine, cette entreprise taïwanaise est d'accord de ne plus vendre de semi-conducteurs à Huawei. Alors idem pour une entreprise européenne qui est ASML, qui est une entreprise basée aux Pays-Bas et qui est d'ailleurs la plus grande capitalisation de l'Eurostoxx 50. Et c'est la entreprise de ce secteur-là pour fabriquer des équipements qui permettent de produire des semi-conducteurs. Et cette entreprise, encore une fois, sous la pression américaine, même sans texte ni de executive order du président Trump, cette entreprise est d'accord de ne plus vendre d'équipements avancés aux entreprises chinoises afin que les entreprises chinoises puissent un jour fabriquer également des semi-conducteurs plus avancés.
Et cette pression américaine s'exerce par le droit, mais c'est aussi ce qui se passe du côté de la Chine. Et là, je voudrais en venir à la question du règlement des litiges, qui est aussi partie prenante dans cet accord en discussion actuellement entre l'Union européenne et la Chine. Quel est aujourd'hui le droit qui s'applique selon Pékin en cas de litige sur les nouvelles routes de la soie, Laurent Malvezin?
Elle a constitué deux cours spéciales dans le cadre de son projet, situées sur son territoire.
Je vais très mal prononcer, mais Shenzhen et Xi'an, c'est ça? Mais
vous avez bien prononcé. Je le dis.
Xi'an. Voilà, c'est votre contrôle.
Ce sont des cours spécialisés ça pose la question de l'extension du domaine juridictionnel chinois, puisque si tous les litiges passent sous tribunal chinois, alors que ce sont des traités qui sont des accords, pardon, qui sont des accords en dehors de Chine, on voit bien que la logique intrinsèque de ce projet-là, qui veut étendre un petit peu le champ d'application de la loi chinoise sur des contrats internationaux.
Donc concrètement, si on comprend bien Sébastien Jean, la Chine est en train d'imiter le principe d'extraterritorialité du droit américain?
Il peut y avoir cette tentation, effectivement. D'ailleurs, on peut remarquer aussi que la Chine a une grande loi de contrôle des exportations qui est en préparation. Et donc, ça veut dire que ils vont aussi réfléchir restreindre une partie des exportations de matériel sensible, comme le font les Américains et dans certains cas les Européens aussi, d'ailleurs. Donc c'est une façon effectivement de se doter de tous les attributs des superpuissances, une façon aussi d'essayer d'exporter ces normes ces façons de régler les problèmes et d'imposer, enfin de projeter sa puissance, hein, parce que pour les routes de la soie, c'est bien cela dont il s'agit.
Et ce que vous expliquez dans vos articles, Laurent Malvezin, c'est qu'en réalité, cela fait plusieurs années que les entreprises étrangères se voient incitées à choisir une juridiction chinoise dans leur projet de partenariat avec une entité chinoise en dehors de Chine?
Alors, c'est plus large que ça. non seulement elles doivent choisir d'adopter un ensemble de règles qui ne qui font pas partie de, je dirais, du corpus et parfois en délicatesse avec le droit européen, le droit international, le droit des affaires, le droit des contrats. Mais comme le souligne le dernier rapport de la Chambre européenne de commerce en Chine, hein, qui date de 15 jours à peu près, 3 semaines, les entreprises européennes désormais sont soumises à une pression de type politique, où elles peuvent être sanctionnées dans le cadre de mesures de rétorsion que la Chine pourrait leur imposer si le gouvernement chinois et le parti décidaient qu'elle était que la Chine était accusée à tort dans des dossiers variés, diplomatiques, stratégiques. On l'a vu sur par exemple pour l'Australie, hein, qui avait demandé suite au déclenchement du coronavirus en Chine, une enquête internationale indépendante, et en résumé, en mesure de rétorsion, sans le dire bien évidemment, mais moi j'y vois un lien de causalité directe, elle a décidé d'imposer des droits de douane de plus de 80% sur un produit céréalier, l'orge, qui constitue une grande part du commerce bilatéral entre la Chine et l'Australie.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, Laurent Malvezin, parce que c'est précisément à travers ces accords bilatéraux que cette pression peut s'exercer. On a le sentiment, vous allez nous dire, mais que peut-être il y a une stratégie chinoise de division des pays européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Vous la nuancez dans l'un de vos articles.
Oui, je pense que tout acteur qui a une volonté de puissance n'a pas envie d'avoir quelqu'un d'aussi puissant devant lui. Et donc, diviser pour mieux régner, c'est un adage qui est encore valide aujourd'hui pour la Chine, mais pas que. Pas que, loin de là. Les États-Unis également utilisent cette technique, si j'ose dire. Mais il y a autre chose. La Chine veut avancer. Elle veut avancer partout où elle n'a pas beaucoup de résistance. En priorité, là où elle a, on va dire, selon la loi de la moindre résistance, là où elle peut avancer le mieux.
Et il y a certains pays européens qui résistent moins que d'autres.
Et il y a certains pays européens...
voire certains pays qui voudraient entrer dans l'Union européenne, aux marges de l'Europe.
Les deux, effectivement. Des membres à part entière de l'Union européenne et des candidats, plus ou moins éloignés à l'entrée à l'Union européenne, ne sont pas aussi tatillons, je veux dire ça comme ça, sur, par exemple, les règles de éthiques, que ce soit au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des relations entre entreprises. Et donc, diviser pour mieux régner, oui, mais c'est de l'opportunisme. Je pense que la Chine a envie d'avancer là où elle le peut, et certains pays sont plus faible sur les fondamentaux que d'autres.
En tout cas, les chefs d'État et de gouvernement européens se réuniront le 16 novembre à Berlin pour un sommet consacré aux relations avec la Chine. Et les 27 se sont également engagés à avoir une nouvelle réunion avec le président Xi Jinping en 2021. On en saura plus à ce moment-là. Un grand merci à tous les trois, Sébastien Jean, Baïchu, Laurent Malvezin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de la Bibliothèque de l'Écho. Le sociologue François Dupuis fait paraître le troisième tome de sa série Lost in Management aux éditions du Seuil. Sous le titre « On ne change pas les entreprises par décret », il nous livre ses conseils pour une collaboration efficace entre les différents acteurs du monde du travail. Il explique son parcours et ses méthodes au micro de Marguerite Caton.
Pour le sociologue que vous êtes, l'entreprise, ce n'est pas une structure, c'est une organisation. Expliquez-nous la différence, François Dupuis.
Il y a une confusion qui est généralement faite quand on parle d'organisation. Tout le monde voit tout de suite la structure, c'est-à-dire l'organigramme, les règles, les procédures qui expliquent comment la structure doit fonctionner. En fait, ce faisant, on fait une erreur. On ne peut pas réduire une organisation, un organigramme à une structure ou à des règles et des procédures. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que si tout le monde essayait d'appliquer les procédures, l'organisation ne marcherait pas. Et par conséquent, il faut aller plus loin et comprendre qu'une organisation, c'est fait de ce que font les gens. C'est-à-dire, c'est un ensemble de comportements humains. Et d'un certain point de vue, la structure, c'est théorique. Et mêler comportements, c'est pratique. C'est pour ça que je définis l'organisation comme l'ensemble de ses comportements. Et comprendre une organisation, c'est comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font.
Et transformer une organisation, c'est transformer les comportements. Et dans la même distinction entre la structure et l'organisation, dans ce même élan, vous distinguez la hiérarchie et le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est-à-dire que si une organisation était simplement une structure, eh bien, le pouvoir correspondrait exactement à la hiérarchie. Plus on monterait dans l'organisation et plus on aurait de pouvoir. Vous savez, si c'était le cas, on aurait du mal à expliquer pourquoi dans certaines entreprises, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui donne une promotion, par exemple. Donc il n'y a pas d'adéquation entre pouvoir et hiérarchie. Donc la sociologie montre une chose claire, c'est que l'on a du pouvoir, non pas parce qu'on est à tel ou tel niveau de la hiérarchie, mais parce qu'on contrôle quelque chose d'important, soit pour l'organisation elle-même, soit pour les autres acteurs. Je voudrais juste l'illustrer d'un exemple contemporain. Je mène actuellement une énorme étude sur la façon dont le Covid est géré dans les entreprises. Eh bien, je peux vous dire que ceux qui ont le pouvoir en ce moment dans les organisations, c'est l'encadrement de proximité, c'est-à-dire ceux qui gèrent directement les opérations sur le terrain, parce que c'est eux qui contrôlent l'essentiel de ce qui fait vivre les organisations dans cette période.
On redécouvre les premières lignes.
Alors, je veux dire que c'est une des conséquences les plus fortes de la crise actuelle. C'est on redécouvre en effet les premières lignes et ça n'a pas fini de générer des conséquences. Mais c'est un point que je n'ai pas développé dans le livre, puisque le livre a été écrit avant cette crise Covid.
Dans votre livre, il y a une thèse qui est très intéressante, François Dupuis, centrale. C'est que le taylorisme est dépassé comme modèle de production de valeur, mais qu'il s'est malheureusement renforcé comme modèle d'organisation. Alors, qu'est-ce que l'entreprise tayloriste et comment y aménager le travail ?
Vous avez vraiment raison de souligner ce point-là, parce qu'il y a tellement d'ouvrages à la mode sur le fait que le taylorisme serait dépassé maintenant, et que ça n'est pas le cas. Vous voyez, le mode taylorien se définit par deux caractéristiques. La première, c'est le fonctionnement en silo, c'est-à-dire chacun travaille dans sa partie d'organisation, et d'autre part, il se définit par un mode de travail que j'appelle segmenté et séquentiel. C'est-à-dire segmenté, chacun travaille dans son silo, fait son travail dans la partie d'organisation dans laquelle il est, et séquentiel dans le sens que il faut attendre que A ait terminé son travail pour que B fasse le sien.
Chacun son métier et le tout doit organiser la chaîne de production.
Exactement. Mais c'est vrai aussi bien dans l'industrie que dans les services. Ce qu'il faut ajouter d'ailleurs, c'est que c'est un mode extrêmement protecteur pour ceux qui travaillent dans ce type d'organisation et c'est probablement la raison pour laquelle il est si difficile de dépasser ce mode d'organisation.
Oui, vous dites que c'est très protecteur notamment de l'autonomie des employés et que ça c'est vraiment voilà. Une constante des demandes des travailleurs. Mais vous marquez un tournant important. C'est la fin des Trente Glorieuses, l'ouverture progressive des marchés, le plongeon des entreprises dans la concurrence mondiale. Cette phase de transformation, vous l'avez identifiée comme celle de la victoire du client. Expliquez-nous.
Oui. Alors, simplement parce que à partir des, vous voyez, c'est le milieu des années 70, mais avec ce qu'on appelle les effets de latence, ça va jusqu'au milieu des années 80, les marchés se sont ouverts, donc la concurrence a commencé à s'installer dans tous les secteurs. On l'a vu d'abord arriver de façon très forte dans l'automobile, puis ensuite elle a tout touché, et par exemple, regardez, dans le domaine de l'aérien. Alors, quel problème ça a posé aux organisations ? C'est que celles que j'ai décrites comme étant segmentées et séquentielles, les organisations tayloriennes protègent énormément bien leurs membres, mais en revanche, elles produisent des biens et des services de faible qualité à un coût élevé. Ça marche très bien quand vous n'êtes pas en concurrence. C'est pour ça d'ailleurs que ça reste le mode de fonctionnement de l'administration publique. Mais le jour où la concurrence fait face, vous devez trouver d'autres modes de fonctionnement que celui-là. Et effectivement, la variable d'ajustement face à cette nécessité a été d'essayer de changer l'organisation du travail, mais on y est plus ou moins bien parvenu, et c'est pour ça que le taylorisme reste encore la forme dominante.
La variable d'ajustement, ça a été les salariés et les plans sociaux.
Ça a été l'organisation du travail, et donc effectivement la façon dont les salariés travaillent. Ça s'est joué autour d'un mot, d'un thème, qui est le thème de la coopération. C'est-à-dire sortir du segmenté séquentiel et faire que les gens travaillent directement les uns avec les autres pour la raison que j'ai indiquée précédemment, c'est-à-dire que ça permet de réduire le coût et d'améliorer la qualité. Le problème, c'est que finalement, c'est très, très, très difficile à réaliser, parce que vous voyez, si le mot coopération a une connotation dans notre vocabulaire qui est une connotation extrêmement positive, c'est très difficile à mettre en œuvre, parce que coopération, ça veut dire mettre les gens en situation de dépendance. Et pas besoin d'avoir fait de la sociologie pour comprendre que tous nous haïssons les situations de dépendance. Donc le mot a une connotation positive, la réalisation de ce mot a des incidences extrêmement pénibles pour les acteurs.
Et c'est ainsi qu'on a assisté d'une part à un désinvestissement des salariés, d'autre part à un renforcement de la coercition managériale. Le tout a conduit, vous nous le racontez, à une perte de compétitivité des entreprises françaises et en même temps s'est installée une grande souffrance au travail. On a multiplié les contrôles et en fait on a perdu le contrôle.
Voilà, vous avez tout dit. C'est-à-dire que, effectivement, comme on a proposé aux salariés un deal, si vous me permettez d'utiliser cet anglicisme, qui était pour eux perdant, c'est-à-dire vous allez quitter des organisations extrêmement protectrices pour des organisations qui sont beaucoup plus confrontationnelles, comme on dit, la coopération, à cette dégradation des conditions, non pas de travail, mais du travail, les salariés ont répondu par le désinvestissement. Et par le désinvestissement, au moment où les entreprises avaient le plus besoin de leur investissement. Donc la réaction à leur tour des entreprises a été de chercher à contrôler au plus près, avec ce que l'on appelle pompeusement des outils de management, ce que font les gens. Ce qu'on appelle des outils de management, c'est essentiellement des process, toujours plus de process, c'est des systèmes de reporting, c'est tous ces mécanismes qui vont permettre de contrôler au plus près, non seulement ce que font les gens, mais comment ils le font. Et d'ailleurs, ça a donné des entreprises qu'on appelle quelquefois des entreprises comment, c'est-à-dire qu'ils se centrent finalement plus sur comment les gens font les choses que le résultat qu'ils obtiennent.
Et évidemment, plus il y a de règles, plus elles risquent de se contredire. Et finalement, le bon fonctionnement de l'entreprise ne repose plus que sur la transgression des règles. Vous l'expliquez, c'est très frappant. Et alors là, c'est la fin de tout, parce que ceux qui décident n'ont plus le pouvoir, et plus ils tentent de le renforcer, plus ils le perdent. Et l'employé hargneux n'a plus qu'à appliquer la règle pour tout faire capoter. C'est la grève du zèle.
Oui, vous avez tout à fait raison, madame. C'est la grève du zèle, mais même au-delà de la grève du zèle, dans la période actuelle que nous sommes en train d'étudier, je peux vous dire que ce que l'on voit se multiplier, c'est des phénomènes que nous appelons la désobéissance organisationnelle. Ce qu'on appelle la désobéissance organisationnelle, c'est le fait de ne pas faire ce que l'entreprise vous demande de faire et de ne pas le faire parce que vous jugez que ça n'est pas l'intérêt de l'entreprise que vous le fassiez. Mais effectivement, quand, en termes plus simples, finalement, on veut faire pression sur sa direction pour obtenir quelque chose, un bon moyen, c'est simplement de dire, écoutez, je vais appliquer tous les process que vous me demandez d'appliquer. Ceux qui ont bien compris ça, excusez-moi de citer cet exemple bateau, c'est les contrôleurs aériens. Le jour où les contrôleurs aériens décident d'appliquer strictement les règles des intervalles entre deux décollages et deux atterrissages, de toute façon, il n'y a plus d'avion dans le ciel. Donc, c'est simplement ces règles sont inapplicables.
Vous prenez des exemples très concrets dans votre ouvrage, des cas précis. Et Air France tient une place intéressante, importante. On se rappelle, en effet, 93-94, les grandes grèves d'automne et de l'hiver. Air France était au bord de la faillite. 3 ans de plans sociaux, les plus lourdes grèves de son histoire. Il y a un nouveau patron qui arrive, il s'appelle Christian Blanc. Qu'est-ce que vous lui conseillez à ce moment-là? Et donc, finalement, quels sont les outils pour sortir de la situation quand même assez catastrophique que vous décrivez?
Moi, je remercie d'ailleurs Christian Blanc, qui est depuis devenu un ami. Je le remercie d'avoir compris ça, de m'avoir écouté. C'est-à-dire, je lui dis ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire sans connaissance. Alors, quelquefois, quand vous dites ça à des patrons d'entreprise, « Oh, mais la connaissance, ça prend du temps, vous allez me dire des choses trop compliquées, etc. » Tiens, lui, il a admis, Christian Blanc, qu'il fallait prendre le temps, il m'a donné un mois, pour vous dire la vérité, à l'époque, pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'Air France dans les différentes parties composant l'organisation. Et c'est à partir de ce que l'on pourrait appeler ce diagnostic élaboré, grâce à l'approche en termes sociologiques, qu'il a pris un certain nombre de décisions progressivement, qu'on a fait travailler les gens en groupe, comme je l'explique dans le livre d'ailleurs, pour progressivement en arriver à ce qui est un peu l'impensable, c'est-à-dire de faire un référendum auprès des populations d'Air France pour obtenir leur adhésion au plan que petit à petit on avait élaboré.
C'est encore d'actualité ce type de solution? D'abord la connaissance, deuxièmement la transformation collaborative?
Enfin, de toute façon, et c'est le thème central du livre, pas d'action sans connaissance. Je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que ce qu'il faut absolument conserver, c'est cette idée, il faut arrêter de trouver des solutions à des problèmes qu'on ne connaît pas. Et encore une fois, vous voyez, je vais reprendre un mot de Michel Crozier qui m'avait beaucoup frappé. Il disait toujours, le problème, c'est le problème. C'est-à-dire, tant que vous ne connaissez pas le problème, eh bien, vos solutions, finalement, c'est comme si vous tiriez à pile ou face. Et une fois que vous avez compris quel est le problème, je l'explique dans le livre, alors à ce moment-là, vous vous dites, je comprends à partir de quel comportement des acteurs, et les sociologues diraient des stratégies des acteurs, comment ces stratégies s'articulent les unes aux autres pour arriver à donner le résultat que je constate et qui est un résultat qui ne me convient pas. Du coup, vous pouvez vous dire, ayant compris pourquoi les acteurs font ce qu'ils font, je vais regarder sur quels éléments de leur contexte je peux jouer de façon à chercher à infléchir leur comportement. Mais l'idée à retenir, c'est surtout que les acteurs sont intelligents. Vraiment, c'est le point clé, l'intelligence des acteurs. Qu'est-ce que j'appelle l'intelligence des acteurs ? C'est la capacité qu'ils ont tous, autant qu'ils sont, quelle que soit leur fonction, leur rôle, leur sexe, leur taille, leur poids, tout ce que vous voulez, à trouver des solutions qui sont cohérentes avec le contexte dans lequel on les met. Les principaux leviers se trouvent dans les systèmes de gestion des ressources humaines, ça va au-delà de la rémunération, c'est les systèmes de promotion, d'évaluation, etc. Tout ce qui conditionne finalement le devenir de l'acteur dans l'organisation.
Et comment on fait des ressources humaines à distance maintenant avec le télétravail ?
Ah oui, mais il ne faut pas oublier une chose, madame, vous avez raison, mais le télétravail actuel, n'oublions jamais que c'est un télétravail de crise. Donc ce n'est pas un télétravail qui a été pensé, c'est un télétravail qui est subi pour le moment, subi par les organisations, pas par les gens qui sont en télétravail puisqu'ils l'apprécient. Et donc chacun s'adapte au mieux dans cette situation pour faire son métier à partir du télétravail. Et les RH, pardon, les ressources humaines comme les autres.
Je vous remercie beaucoup François Dupuis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « On ne change pas les entreprises par décret, au seuil », et c'est le tome 3 de la série « Lost in Management ».
Fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à toutes et tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Demain, à quoi bon financer la recherche fondamentale ? On posera la question à Emmanuel Bertrand et Daphné Raffini. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.